Je voudrais commencer le cours à la page 34, même si on l'a fait la dernière fois, le dernier paragraphe la dernière fois. Alors, page 34, ligne 33 ou 34, c'est la même chose. Alors, page 34, ligne 34, mettons.
Attends, je n'ai pas trouvé
Lynn, voudrais-tu lire?
Oui. Maintenant, bienvenue dans le sous-club de la sobriété, le club de l'humilité. Parfois, l'humilité peut être définie comme la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Tel est un signe de savoir réaliser en ce qui a trait au bagage spirituel d'un dévot qui se doit. La vie matérielle a parfois ses bons côtés. Elle force une âme conditionnée à prendre conscience de sa véritable position d'âme spirituelle à force de se faire taper dessus de tous bords, de côtés. La leçon est longue et ardue car l'âme conditionnée a la tête aussi dure que les coups qu'elle encaisse. Un vilain cercle vicieux en perspective. Si quelqu'un est vraiment chanceux dans sa tête et son cœur, il se verra humilié et l'acceptera avec joie qu'il en soit ainsi. Une fois l'humiliation reconnue, son cœur en sera d'autant plus soulagé de toute forme de sordide prestige illusoire. Fini les folies du faux ego, un soulagement fort souhaitable en fait. Bienvenue encore dans le club de l'humilité, à toute fin pratique.
Bien, merci beaucoup pour la question. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Srila Prabhupada ki jai.
Vasudevaya.
Alors, ici, on parle, c'est dit ici, si quelqu'un est vraiment chanceux dans sa tête et son cœur, il se verra humilié et l'acceptera avec joie qu'il en soit ainsi. Une fois l'humiliation reconnue, son cœur en sera d'autant plus soulagé de toute forme de sordide prestige illusoire. Fini les folies du faux ego, un soulagement fort souhaitable en fait, bienvenue encore dans le club de l'humilité à toute fin pratique. Et là, la question là-dedans, c'est que est-ce que une situation comme ça ou un état d'âme comme ça peut être le fruit des trois modes, les trois gunas de la nature matérielle, parce que d'habitude, l'âme conditionnée est simplement sous l'influence des trois gunas. Alors que ce soit la vertu, la passion, l'ignorance, mais c'est toujours dans un cercle qui est basé sur soi-même. Moi, 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 et ce qui m'arrive à moi, et ce que je fais moi, et ce que je possède moi. Alors, pensez-vous qu'une personne qui est dans le moi, 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 peut vraiment devenir humble? On t'entend pas, Nanda.
Non, pas du tout.
Alors, justement, c'est impossible.
Non, c'est impossible.
Alors, ce qui est sous-entendu, sans que ce soit écrit, comme par exemple, si quelqu'un est vraiment chanceux dans sa tête et son cœur, il se verra humilié et l'acceptera avec joie qu'il en soit ainsi, mais ça, c'est impossible. Matériellement parlant, dans le sens, oui, ça peut être possible dans une certaine mesure, mais pas à long terme. Parce que l'âme conditionnée, elle a ce désir dans son cœur qui est une contamination de l'énergie matérielle, à savoir de vouloir dominer. Alors, temporairement, elle peut s'avouer malheureuse, déçu par la vie matérielle. Supposons que, par exemple, quelqu'un est un athlète, il a un accident de voiture, et supposons que c'est un athlète, mettons un lutteur ou un joueur de hockey ou un gars qui va aux Jeux olympiques athlétisme, il a un accident de voiture, tout d'un coup, il perd une main, il perd un bras, il perd une jambe. Sa vie est finie. Sa vie d'athlète est finie. Alors, dans son lit d'hôpital, est-ce qu'il va penser que, ah, merci la vie, vous me montrez une belle leçon d'humilité? Disons, comme les, oh boy, dans les champions olympiques américains, pas sûr que c'est du monde qui sont très, très humbles. D'habitude, la bousculade aux Olympiques, puis les coups un peu douteux, des fois ça fait son chemin. Alors l'humilité, c'est pas quelque chose qui, c'est pas la vie matérielle qui va vraiment la donner, mais d'une façon directe, d'une façon indirecte, oui. Mais directement, non. La vie matérielle va pas nous enseigner. Pourquoi? Parce que l'âme conditionnée baigne dans l'ignorance. Tu vois, il y a une prière qu'on adresse tous les jours à notre maître spirituel, à savoir Om Gyana Timarandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Et j'offre mon humble hommage à mon maître spirituel qui m'a ouvert les yeux avec le flambeau de la connaissance, moi qui étais né dans les ténèbres de l'ignorance. Alors, c'est par la grâce d'un maître spirituel, par la grâce d'un pur dévot, que finalement, les yeux sont ouverts à la réalité spirituelle. Et la réalité spirituelle veut que ce soit Krishna, qui est reconnu comme le centre de tout. Ça, c'est la vie spirituelle. Alors, jusqu'à quel point un dévot ou un aspirant dévot ou dévote va contempler Krishna, va méditer sur Krishna comme étant le centre de tout ce qui existe, ça dépend de la grâce de Krishna. Et à partir de la grâce de Krishna, tout le reste suit dans la vie spirituelle. Alors, on va continuer à lire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non, c'est bon, c'est clair.
OK, parfait. Alors, ça, c'est quelqu'un vraiment fortuné. Ça veut dire qu'il doit être un dévot de Krishna qui a reçu la grâce de Krishna. Sinon, c'est la vie matérielle dans un angle ou un autre. Alors, Ananda, veux-tu continuer à aller, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. L'humilité, la vraie donc, sous-entend une sincère prise de position d'acceptation de la seule et unique dominance réelle qui soit, c'est-à-dire celle du Maître Tout-Puissant, avec pour conclusion que je ne suis vraiment pas Dieu moi-même. Je dois me résigner à le servir en toute connaissance de cause, par pur choix. Et ce choix sous-entend avec amour, car c'est pour très très longtemps et c'est pour l'éternité en fait. Sinon, c'est le cycle des naissances et morts à vivoter, virevolter et recommencer à poursuivre la seule et unique illusion, se prendre pour Dieu au lieu de revenir à ses esprits pour le servir. Une fois la relation établie, l'anxiété associée à l'illusion disparaît, et c'est la fin d'une existence par trop matérialiste, l'existence matérielle, quoi.
OK, merci, Jai. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non, merci.
OK. Bon, merci. Alors, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que l'homme sage qui me connaît, qu'est-ce qu'il fait? Chapitre 7, verset 19. Krishna dit, l'homme sage qui me connaît, après de nombreuses naissances, s'abandonne à moi et reconnaît que Vasudeva est tout ce qui est. Ça, c'est dans Bhagavad Gita. Alors, Ça, c'est l'humilité. Ça prend de l'humilité pour venir à cette conclusion-là. Et ça prend un pur dévot pour nous l'enseigner que nous sommes très, 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 très petits, infinitésimales par rapport à Dieu, qui lui est, disons, l'âme suprême, qui a toute puissance, qui peut faire tout d'une façon inconcevable pour nous. Et c'est ça la vie spirituelle, c'est très humble. Et puis servir Krishna de toute son âme, de tout son cœur. L'enseignement de toutes les religions, ça revient à ça. C'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toutes ses forces. D'avoir un mental fixé sur Krishna, sur Dieu, la personne suprême. Alors, le problème, c'est que les âmes conditionnées veulent compétitionner avec Dieu. C'est pour ça qu'elles sont mises dans ce monde matériel. C'est un endroit où Krishna donne aux âmes rebelles, celles qui veulent être indépendantes de lui. Voici un endroit où vous pouvez essayer d'être Dieu. Vous pouvez essayer. Alors, si on se prend pour Dieu, il y a beaucoup de choses qui viennent avec, même si quelqu'un n'en est pas conscient. Pourquoi il n'en est pas conscient? Parce qu'il n'a pas eu la grâce de Krishna d'en devenir conscient aussi. L'oubli, c'est l'oubli. Alors, une fois qu'on oublie, c'est pas demain la veille qu'on va se réveiller, malheureusement. Alors, je vais vous donner un exemple concret de, disons que la vie matérielle est remplie d'anxiété. Et celui qui s'identifie aux faits et gestes de la vie matérielle, il va être rempli d'anxiété. Et la vie spirituelle, c'est le contraire. C'est une absence d'anxiété ou de tracas, ou c'est voir les choses telles qu'elles sont en relation avec Krishna. Alors, je vais vous donner un exemple. Ça remonte à peu près à peine un mois. Alors, je m'en vais. Ici au Canada, la température veut que quand on est au mois de mars, en tout cas pour les températures qu'on a dernièrement, il fait chaud le jour, mais ça gèle pendant la nuit. Alors, il reste des plaques de glace dans la rue. Alors, ça donne l'impression que tu peux rouler vite, mais si jamais tu freines sur une plaque de glace, tu peux être dans le trouble. Alors, je m'en vais, je fais ma sortie habituelle pour m'en aller à la dialyse pour ma belle-mère. Et en chemin, je vois de loin il y a une voiture perpendiculaire à 90 degrés sur le terre-plein. Et la conductrice, parce que, disons, c'est un grand boulevard, là, disons, il y a deux lignes chaque côté. Alors, avec un terre-plein dans le milieu. Et je vois cette voiture de loin. Puis, et une moitié de la voiture est sur le terre-plein, puis l'autre moitié est dans la route, sur la route. Et la madame, c'est une conductrice qui a eu cet événement-là, et elle est sortie de son auto. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de service mécanicien pour l'aider, il n'y a personne, elle est juste là. Et là, je vois son visage, moi je conduis, je peux pas m'arrêter parce que j'allais chercher ma belle-mère. Alors, je regarde son visage, et là, elle a le visage en pleurs, et comme vraiment bien anxieuse de cette situation-là. Mais ça, c'est la vie matérielle, c'est exactement comme ça. Alors, si c'est un dévot qui se retrouve dans la même situation, comment est-ce que le dévot va réagir? Avez-vous une idée?
avec calme et sérénité et faire confiance que ça va s'arranger.
Oui, c'est tout à fait comme ça. Le dévot va pas paniquer, va pas se mettre dans l'anxiété, le dévot va réfléchir.
Il va
bon,
assumer.
ben, un coup de karma.
Il va assumer.
Pardon?
Il va assumer, en fait.
Oui, il va assumer. Moi, quand j'étais en France, j'étais toujours sur la route pendant 6 ans et j'ai à peu près 5-6 accidents dans lesquels pour une raison ou pour une autre, on était impliqués. Mais à chaque fois, jamais été genre, c'est la fin du monde, comment ça se fait que ça nous arrive à nous, etc., etc. C'était, bon, ben, c'est arrivé. Que, par la grâce de Krishna, on n'a pas eu grand-chose. Et puis, la voiture est bonne pour la scrap, mais le conducteur, lui, non, il n'est pas bon pour la scrap, il va continuer. Et puis, la vie continue. Puis, c'est tout, ça fait partie de la vie. Alors, la Bhagavad Gita nous enseigne cette philosophie, à savoir de rester calme, de rester serein, et c'est ce qu'on appelle être dhīra. Dhīra, une personne qui n'est pas dérangée par l'illusion des circonstances matérielles. Alors, il y a un verset dans la Bhagavad Gita, qui nous montre cette philosophie, et c'est ce qu'on va lire dans le prochain paragraphe. Alors, questions, commentaires? Non, ça va? OK.
Non, ça va. Merci.
Alors, Virginie, veux-tu lire le prochain paragraphe, s'il te plaît?
Seule une personne sauve peut voir clair quant aux étapes propres à la vie matérielle et ne pas en être troublé. Le Seigneur Krishna en accorde la sagesse essentielle dans la Bhagavad Gita 2.13 et 14. Une personne sobre doit naturellement être dévouée à Dieu pour reconnaître aisément le côté changeant et temporaire de toute situation dans le monde matériel. Elle reconnaît que ce n'est pas une place pour s'y complaire, à croupir sous l'illusion. Elle demeure sobre et s'emploie à servir Dieu avec cette même énergie. Après tout, tout est son énergie. Dieu est entièrement spirituel et son service spiritualiste, toute énergie et tout serviteur inclus. Et son service spiritualise toute énergie et tout serviteur inclus. Il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. En est-il ainsi? Toujours ainsi? Amen. Personne ne peut prétendre à quelque situation permanente dans le monde matériel, que ce soit du Seigneur Brahma à la plus petite des fourmis. Aucune planète, voire aucun univers, ne représente quelque refuge véritable qui soit acceptable. Le seul refuge est ailleurs que dans le monde matériel. Et c'est aussi simple que cela pour un dévot se voulant sobre en toutes circonstances. Quiconque est vraiment intelligent cherchera à se libérer des reflets trompeurs du monde matériel pour ne rechercher en contrepartie que le monde spirituel. Tel est le début de toute forme de désintoxication, de réduction graduelle, de toute forme de vanité quant à sa propre personne. Les choses pourront être perçues avec de plus en plus de sobriété et humilité dans une conscience de Krishna d'autant plus accrue.
Ouais, merci. Alors, Prabhupada, dans ses classes, il citait une citation en sanskrit qui veut que les devas ou les demi-dieux ont toujours le regard posé sur le monde spirituel. Ils recherchent le monde spirituel. Et les êtres qui ne sont pas des devas, pour eux, c'est l'énergie matérielle. Alors, Prabhupada fait une citation comme ça. Je me souviens pas des mots, là. Ça ne me vient pas pour l'instant. Mais, comme c'est dit ici, que justement, les devas recherchent tout le temps le monde spirituel. Alors, dans le monde spirituel, Il n'y a pas de compétition avec Dieu. Et tout le monde est en amour avec Dieu. Tout le monde veut servir Dieu. Et tout le monde, il n'y a pas d'envie non plus. L'envie vient de l'envie de Dieu. On veut être Dieu. Alors pourquoi lui, mais pourquoi pas moi? Et aussitôt qu'on pense comme ça, on se retrouve à tomber dans le monde matériel. Mais dans le monde spirituel, il y a juste Krishna qui est au centre et qui fait des choses pour faire plaisir à ses dévots. Et les dévots font des choses que pour faire plaisir à Krishna. Ça va main dans la main. Krishna veut faire plaisir à ses dévots et les dévots veulent faire plaisir à Krishna. Ça, c'est le monde spirituel. Alors, il faut devenir conscient de ça. Et on peut pratiquer aussi, même si on est dans le monde matériel, c'est une question de conscience, simplement. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Okay. Lynn, veux-tu lire?
Oui.
Page 35, ligne 29.
L'existence matérielle est un feu de forêt ardent où nul ne peut rester sans périr. Peu importe la direction, tous les êtres y sont pris au piège. Si c'est cela, tout être humain devrait se poser la question, pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi la souffrance m'est-elle imposée? Quelle est la solution à ce problème? Les écritures authentiques du monde entier nous orientent dans la direction d'un monde éternel, communément appelé le royaume de Dieu. Est-ce suffisamment clair? Est-ce si facile à oublier cet objectif? Et si tel est le cas, pourquoi est-il si facile d'être emporté par le flot d'affaires quotidiennes et oublier le but ultime? Mettons tout cela sur le dos de l'influence de l'énergie inférieure du Seigneur. Cette énergie est insurmontable à moins de s'abandonner entièrement au Seigneur. Et si l'on s'abandonne, l'on devra nécessairement aboutir à s'engager dans le service de dévotion du Seigneur. La vie prend alors un tout autre sens. Le Seigneur donne à son dévot sincère ce qu'il faut pour le servir. Le Srimad Bhagavatam 1.2.7 affirme VV Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Jana Yati Asu Vairagyam Yanam Chayad Ahai Pikam. Vasudeva à Krishna, Bhagavati à la personne suprême, Dieu, Bhakti Yoga, le service de dévotion, Prayojita étant appliqué, Jana Yati produit Asu très bientôt. Vairagyam, détachement, Gyanam, connaissance, cha et yat, ce que, ay, tukam, immotivé. Qui sert le Seigneur suprême sur Krishna avec amour et dévotion, acquiert aussitôt par grâce le savoir et le détachement. Teneur est porté. Ceux qui voient le service de dévotion offert au Seigneur suprême sur Krishna comme une manifestation d'émotivité, plus ou moins matérielle, pourraient ici objecter que les Écritures recommandent comme moyen de réalisation spirituelle d'autres voies. Seul du sacrifice, de la charité, de l'austérité, de la connaissance, des pouvoirs yogis, etc. Selon eux, la bhakti, la dévotion au Seigneur est réservée à ceux qui se montrent incapables de pratiquer une méthode supérieure. Il est courant également d'entendre dire que la voie de la bhakti convient davantage aux femmes, aux shudras et aux vaishyas, dont l'intelligence est de moindre acuité. Raisonnement des plus superficiels. La pratique de la bhakti, la plus haute de toutes les activités spirituelles, est à la fois sublime et facile. Elle est en même temps sublime pour les purs bhakta, animés de sérieux désirs d'entrer au contact du Seigneur suprême, et facile pour les néophytes, ceux encore au seuil du palais de la dévotion au Seigneur. Savoir entrer au contact de Dieu, la personne suprême, au Sri Krishna, est une grande science, et elle s'avère accessible à tous. Shudra, Vaishya, femme, voire aux êtres dits de basse naissance, inférieurs même aux Shudras. À plus forte raison conviendra-t-elle aux hommes particulièrement évolués, brahmana qualifiés ou grands rois saints et réalisés. Quant aux nobles pratiques du sacrifice, de la charité, de l'austérité, elles représentent autant de corollaires à la pure science de la bhakti. Les principes du savoir et du détachement constituent deux facteurs de poids sur le chemin de la réalisation spirituelle. Le développement de la spiritualité entraîne une connaissance parfaite de toutes choses matérielles et spirituelles, et les effets d'un tel savoir se manifestent par le détachement du monde de la matière et l'attachement aux activités. activité spirituelle. En effet, se détacher des choses matérielles ne signifie pas cesser toute activité, comme le croient les ignorants. La neige karma consiste plutôt à renoncer à toute activité engendrant des conséquences matérielles, bonnes ou mauvaises. La négation n'implique pas la contestation de tout point de vue positif. Le rejet du non-essentiel n'implique pas en même temps celui de l'essentiel. De même, le détachement des formes matérielles ne saurait impliquer la négation de la forme positive, spirituelle, que la bhakti a pour objet de réaliser. Qu'on le réalise et on rejette par là même toutes les formes négatives. Par suite, avec le développement de la bhakti, engagement positif au service de la forme positive, on se détache naturellement des objets inférieurs pour s'attacher aux valeurs supérieures. Ainsi, la pratique de la bhakti, parce qu'occupation suprême, arrache l'être au bas plaisir des sens. Et c'est ce qui fait la marque du pur bhakta. Il n'est pas sot, il ne perd pas ses esprits, ni ne s'empêtre au niveau des énergies inférieures ou ne s'attache aux valeurs matérielles. On ne saurait d'autre part atteindre ce savoir qualifié par quelques raisonnements stériles, car il n'est en fait accessible que par la grâce du Tout-Puissant. Concluons en disant que le pur bhakta possède toutes les qualités, voire le détachement ou renoncement. Mais celui qui possède uniquement le savoir ou le renoncement ne maîtrise pas nécessairement les principes de la bhakti. La bhakti, donc, constitue pour l'homme l'occupation suprême. Attachement au spirituel au détriment, heureusement, du matériel peut être un grand sujet de discussion, de long en large ou de constante réflexion personnelle. Dans un cas comme dans l'autre, ce sera par excellence dans la compagnie d'êtres conscients de Dieu, de Krishna, pour être précis, que l'on trouvera les échanges de réalisation recherchés. À cette fin, la grâce de Krishna, comme telle, se manifeste à travers la grâce prodiguée par un pur bhakta, un maître spirituel authentique. Cette grâce combinée, prodiguée à tout candidat sincère, saura faire toute la différence entre laisser celui-ci ou celle-ci tâtonner ou voir les choses dans leur juste perspective à la lumière d'une connaissance purement spirituelle. C'est dans cet état de grâce que l'on peut aspirer à retenir l'enseignement confié au point 1.5. Réaliser les rouages de l'existence matérielle et les accepter sans la moindre illusion, tel est un gage de sagesse fort prometteur. En d'autres mots, savoir à quoi s'en tenir, sans illusion, tout en nourrissant le désir sincère d'être en contact avec le Seigneur, s'en remettant entièrement à la directive de son digne représentant pour l'éternité. Cet état d'esprit n'empêche pas les circonstances matérielles d'être ce qu'elles sont par étapes successives inévitables, naissance et déclin, mais la conscience nécessaire à la transcender est suffisamment insufflée chez toute âme abandonnée au Seigneur. Telle est la base élémentaire pour s'affranchir de l'illusion et envisager sérieusement retourner au royaume de Dieu.
Yeah. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non, c'est bien clair, en fait. C'est... Mais c'est dans ce...
Mais là,
Il faut...
Ben moi, j'ai juste une petite question.
Pardon? On t'entend?
Juste une petite question.
Oui?
Ben, juste pour revenir pour le neige karma consiste plutôt à renoncer à toute activité engendrant des conséquences matérielles bonnes ou mauvaises. Les conséquences matérielles bonnes ou mauvaises, c'est finalement quand on fait des choses et qu'on veut des choses pour soi-même, même si elles sont bonnes, c'est karmique aussi.
Tout à fait, je suis d'accord.
C'est ça, là. Ben, je pose la question.
Ben, justement, c'est tout à fait cela.
Oui, je suis tout à fait d'accord aussi.
C'est tout à fait cela. C'est comme, par exemple, la charité. Dans Bhagavad Gita, il y a trois formes de charité qui sont décrites. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a chez le Prabhupada pour nous donner des teneurs et portées pour nous éclairer. Parce que juste lire les versets de la Bhagavad Gita, mettons qu'on prend pas nécessairement la Bhagavad Gita telle qu'elle est. Il y a plein d'autres traductions, dont d'après Prabhupada, là. Prabhupada qui dit dans l'introduction qu'il y en a vu 200 traductions de Bhagavad Gita, mais ne pouvait pas en recommander une seule. Alors, dans la Bhagavad Gita telle qu'elle est de Srila Prabhupada, ben Krishna aussi, ben les versets que Krishna donne décrit la charité, décrit les austérités. Bon, la charité qui est faite à des personnes qui ne sont pas dignes, en fait, de faire l'objet de charité. Si on fait charité à ces personnes-là, ben c'est une activité qui peut être jugée bonne d'un point de vue social, mais qu'on appelle selon la Sri Upanishad, parce que dans la Sri Upanishad, Prabhupada parle de cela, et c'est appelé karma bandana. C'est-à-dire qu'on est lié par le karma qui vient par ses actions. Alors, comme Prabhupada il dit, par exemple, dans les Upanishads, on peut être toutes les formes, il décrit, par exemple, le nationalisme, l'altruisme. Il dit, ça peut être bien d'un point de vue social, mais ce sont des belles formes de karma bandana. Alors, oui. On t'a...
Oui, excusez-moi. En fait, juste une question. Si dans le cadre, comme souvent, on a des gens qui sont dans la rue, qui dorment dehors, avec le froid, mais nous aussi, on a des gens qui n'ont plus rien dans la vie matérielle et qui sont à vous demander des fois d'acheter à manger. Ou... Si on le fait, mais juste parce qu'on veut, on veut donner une faveur à quelqu'un, mais qu'on est détaché, en fait, comment c'est perçu, en fait, ce type de générosité? Mais on n'en attend rien, on le fait pas pour en retirer quelque chose. Bien au contraire, c'est pour participer à donner un peu de souffle à quelqu'un. Comment tu perçois ça?
Ça, c'est une bonne question parce que moi-même, je...
C'est difficile, hein, des fois, je...
Moi, je passe mon chemin parce que je vois la personne, disons, d'un point de vue karmique, tu lui donnes dans la vie suivante. Les deux doivent revenir parce que l'autre qui a reçu doit redonner à celui qui a donné. Wow. Ça, c'est le karma pour ça. Alors, je sais que c'est vraiment plate.
Non, c'est que moi, je me suis souvent posé la question en me disant, mais de toute façon, en fait, s'il est dans cette condition-là, c'est que ben, c'est son karma, quoi. Donc, il faut qu'il assume.
Excusez-moi. Excuse de t'interrompre, mais c'est pas aussi parce qu'on a reçu beaucoup que l'on donne aussi.
Peut-être aussi.
Oui, c'est ça. J'ai de la misère avec ce que vous venez de dire, là, j'avoue, Pradhava, parce que quelque part, je sais pas, là, comme faire du bénévolat, je dis, premièrement parce qu'on a le temps, puis aussi parce qu'on a déjà beaucoup reçu qu'on redonne, en fait. On a déjà reçu beaucoup de plein de gens autour de nous. Je sais pas.
Oui, c'est...
On a déjà beaucoup reçu.
Je sais qu'une fois en Inde, il y avait une situation similaire à ça. Prabhupada était avec des dévots.
Excuse-moi d'avoir interrompu.
Non, non, c'est très bien. L'échange est très bien.
Non, c'est bon. On continue. Prabhupada, une fois en Inde, il y avait une situation similaire. Prabhupada était accompagné de disciples. Et, Prabhupada avait dit aux disciples de donner à cette personne en question. Et Prabhupada disait que c'est comme une distribution de prachad.
Vous pouvez fermer la porte, on entend tout, même moi avec mes options, la porte, s'il vous plaît.
Bon. Parfait, merci. Alors, Prabhupada disait, distribution de prachad. Évidemment, c'est pas la nourriture. C'est, disons, comme Lynn dit, c'est comme on a reçu et on donne, on partage. Mais moi, j'ai de la misère avec ça personnellement, là. Peut-être que quelqu'un peut dire, Prabhava, il est, disons, vraiment pas charitable. Mais sur la base des enseignements de Prabhupada, pour moi, pour le peu de charité que je vais faire, je préfère donner au temple ou à des dévots. Ça, c'est mon point de vue personnel. Parce que je me dis, d'un point de vue matériel, Comme Prabhupada dit aussi, l'exemple qui est donné, essayer de sauver la chemise ou le manteau de quelqu'un qui va se noyer. Alors, qu'est-ce qui est plus important? On sauve la chemise, le manteau, ou on essaie d'aider une cause qui est transcendantale? Si on a de la charité à faire en quelque part, je sais pas moi, mais
en fait, moi je pense que tu as complètement raison dans l'absolu. Tu vois, dans l'absolu, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais c'est pas évident de ne pas être insensible à la misère qui nous entoure, en fait, même si on est conscient de l'origine de cette souffrance et de cette misère. Et l'énergie matérielle et l'empêtrement des êtres dans tout ça, mais c'est vrai que voilà. Et moi, à titre perso, c'est que j'ai l'impression d'être égoïste si je partage pas, en fait. Mais comme tu dis, il faut partager pour la bonne cause.
Ouais, mais moi, dans mon expérience personnelle, d'avoir essayé de donner à des personnes en situation itinérante ou quasi itinérante, etc. Moi, je me souviens, j'étais au temple. Je pense que j'habitais au temple, pas loin du temple. Puis c'est pour ceux qui connaissent le temple, il y a un arrêt d'autobus juste pas loin au coin de la rue. Alors, je m'en vais à l'arrêt et je vois une personne qui demandait de l'argent. Et j'avais une pomme du prasad et j'ai fait un geste pour lui offrir. Pour moi, je me suis dit, bon, ben, je vais pas lui donner d'argent, mais je vais lui donner une pomme ou quelque chose que j'avais à ce moment-là. Et il voulait rien savoir. Il était comme offensé ou perturbé que je ne lui donne pas d'argent. Je lui ai rien donné non plus, parce que je sais, ce gars-là, il est là aujourd'hui, il va être là demain matin. C'est des gens qui... c'est des mendiants professionnels. Quand j'étais en France, c'était la même chose. J'étais à Marseille, on a ouvert un centre à Marseille, et tous les jours, à Marseille, de 8h15 le matin jusqu'à 6h30 le soir, on chantait. On était dans les débuts. On n'avait presque rien. On avait des cartels et puis quelques dépliants en papier. On ramassait des dons avec des sucreries qu'on faisait, des Simply Wonderful. On était juste deux. Et on chantait toute la journée. Toute la journée, on était dehors. Au centre-ville de Marseille. Alors, pour ceux qui connaissent Marseille, il y a deux ou trois artères principales dans ce centre-ville-là. Il y a la Canebière et puis le boulevard de Rome, si je me souviens bien. Même chose qu'à Brossard. On a le boulevard de Rome ici, la même chose. Et tous les jours, je voyais ces mêmes gens qui étaient là. Demander la charité tous les jours. Et je voyais parfois, il y avait quelqu'un qui venait les apporter, qui venait les mener là. Donc, c'est comme, à Montréal, c'est la même chose. Il y en a qui sont handicapés, il y a quelqu'un qui les amène dans un véhicule, il va les stationner là, puis eux autres, ils restent là toute la journée, puis ils ramassent. Il ramasse de l'argent. Puis une fois, j'avais approché, on chantait dans la rue, on faisait Sankirtan, puis cette personne-là pouvait pas nous sentir. Et pourtant, c'était dans son bien d'écouter les saints noms, mais elle faisait une face, puis elle était vraiment pas contente qu'on soit en train de chanter devant elle. Parce qu'à Marseille, le trottoir est très large. C'est comme une rue en soi. Je sais pas, moi, combien ça fait de... au moins 3 mètres ou peut-être 4-5 mètres. C'est large, le trottoir à Marseille. Alors, on chante sur le bord de la rue, puis lui est à l'autre extrémité. Puis monsieur est pas content. Puis monsieur est handicapé, vraiment mal foutu. Alors, ça me laisse des expériences amères, moi, d'essayer de dealer avec des personnes comme ça. J'aime mieux, y aller d'une façon transcendantale, soit donner du prasad ou soit donner une littérature, s'ils sont ouverts à ça. Mais selon mes moyens, moi, je ne suis pas un Rockefeller de ce monde. Pour la capacité de charité que je peux faire, je préfère donner au temple. Je me dis, il y en a plein d'autres personnes qui peuvent donner. Alors, pour les autres, c'est pas un problème. Ils voient pas les conséquences. Ben, qu'ils le fassent. Moi, je préfère donner au temple, donner aux dévots pour promouvoir la distribution de la conscience de Krishna. C'est mon point de vue.
Du coup, j'aurais une petite question. Est-ce que ça va être la même chose aussi du point de vue, par exemple, de sa famille ou de ses proches, en termes de karma aussi? Si on a de la famille qui a besoin et qu'on va participer, qu'on va aider sur un plan matériel, parce que bon, ils sont pas forcément tous des dévots et tout, donc est-ce que ça va être la même chose aussi?
Selon... Bonne question. Disons, la réponse, c'est ce n'est pas zéro participation. Parce que Rupa Goswami, je ne pourrais pas citer ça dans Teachings of Lord Chaitanya. Rupa Goswami et Sanatan Goswami, si vous connaissez leur histoire un petit peu, ils étaient ministres avant d'être dévots de Krishna. Ils étaient ministres sous le Nawab Hussain Shah, quand les Arabes dominaient l'Inde. Alors, ils étaient très riches. Et c'est dit qu'ils étaient tellement riches qu'il y avait 2 bateaux remplis de pièces d'or. Tellement ils étaient riches. C'était plus riche que des gens d'aujourd'hui, ça. Puis ça se passe, il y a 500 ans de ça. Alors, ils ont décidé de joindre le Seigneur Chaitanya et il fallait qu'ils partagent leur richesse. Alors, Rupa Goswami, ce qu'il a fait, c'est qu'il a partagé, et Prabhupada dit, il a partagé d'une façon exemplaire. Alors, exemplaire, il a donné le plus gros de sa fortune à des gens, des brahmanas, des dévots. Et à la fin, C'est ça. 50% pour la conscience de Krishna, 25% pour les membres de la famille et un autre 25% pour l'urgence personnelle ou besoin personnel. C'est comme ça qu'il a partagé sa richesse, sa fortune. Alors, Prabhupada dit on devrait suivre cet exemple-là. C'est l'exemple de Rupa Goswami. Alors, c'est pas interdit de faire le nécessaire pour les membres de sa famille, c'est tout à fait compréhensible. Et si on peut, si on fait le lien, Prabhupada, quand il dit aux dévots, instruction générale, que quelqu'un qui a un salaire, il devrait donner 50% à la conscience de Krishna. Mais les dévots, en général, ne suivent pas cette instruction-là. Même si on l'a entendu plusieurs fois, et même si les dévots, ça fait plusieurs années qu'ils sont dévots, ne donnent pas 50% pour la conscience de Krishna, parce qu'ils sont pas assez riches, c'est pas compliqué, là. Ils ont pas assez de moyens. Alors, faut être pratique, là. Tu sais, si je gagne 1 $ par semaine, il faut que je donne 50 sous pour puis il me laisse juste 50 sous pour vivre, ça marche pas, là. C'est pas compliqué. Par contre, si je suis millionnaire, ça, c'est une autre histoire. Parce que j'en ai plus que j'ai besoin. là, à ce moment-là, c'est envisageable de donner en conséquence. Alors, comme dans les Écritures, il y a aussi une histoire dans la Bible aussi. Il y a une personne très riche qui lui a donné, il va au temple, et on parle d'un temple dans le temps de la Bible, là. Il va au temple et il donne quelque chose qui semble une bonne contribution. Puis il y a l'autre personne très pauvre et qui donne peut-être juste une pièce de monnaie ou quelque chose. Puis là, la morale de l'histoire, c'est que pour celui qui a donné la plus grosse donation, ce n'est pas l'équivalent en termes de spiritualité que celui qui avait rien, mais qui a donné le petit peu qu'il avait. Ça, c'est la morale de l'histoire. Il y a une autre histoire dans le Chaitanya Charitamrita, un dévot, un disciple du Seigneur Chaitanya. Et il s'appelait Sridhar Kolevacha. C'est un dévot qui vivait, lui et sa femme. Sa femme dépendait de lui. Et lui, il vendait des feuilles de plantain. Et il avait à peine de quoi vivre. Mais lui, il donnait 50% pour la conscience de Krishna. Alors, le Seigneur Chaitanya, à un moment donné, est venu le voir. Ça, c'était comme sa récompense. Parce que le Seigneur Chaitanya était très content de ce dévot-là, un pur dévot. Évidemment, s'il était, disons, digne de la présence du Seigneur Chaitanya, c'était un pur bhakta, là. C'est officiel, là. Alors, c'est des exemples de partage, disons, comme ça.
Merci beaucoup.
Et un autre exemple dans le livre de Krishna, dans le chapitre 26 du livre de Krishna, le Brahmana Sudama. Sudama était très pauvre comme Brahmana. Il avait sa femme et ça donne qu'il était un ami de Krishna. Mais il vivait très pauvrement. Sa femme était toute amaigrie. D'après le livre de Krishna, était pas belle. Du fait de manque de soins. Alors, sa femme lui dit un jour d'aller voir son ami Krishna. Et finalement, il a dit oui, ok, je vais aller voir Krishna. Mais lui, c'est un pur dévot. Alors, il s'en va voir Krishna juste pour l'amour de voir Krishna. Sans attendre rien, sans demander rien. Mais avant de partir, la coutume veut que, mettons, si tu vas voir Krishna, ou en tout cas, c'est d'amener un petit cadeau. Tu peux pas te présenter juste les mains vides. Alors, tout ce qu'il avait à amener, c'était un petit peu de riz dans un mouchoir. Et quand il est arrivé, Krishna était marié à cette époque-là, il était dans son château. Krishna avait un château pour chaque épouse, un palais, je veux dire. Alors, il va au palais, et là, Krishna le reconnaît. C'est ça, il va au palais où se trouve Rukmini, son épouse, et Krishna. Krishna voit ce brahmana-là et il le fait asseoir sur son lit. Et Krishna lui lave les pieds. Et Krishna lui donne traitement royal de Brahmana, parce que Krishna est très favorable envers les Brahmanas. Et lui, il ne pense toujours pas à demander à Krishna de l'aider. À Krishna, il sait qu'est-ce qu'il a amené, ce petit cadeau, un petit mouchoir avec du riz dedans. Et il dit, Krishna lui dit, mais qu'est-ce que t'as amené là, là? Bon, donc, voir. Et Krishna prend le petit mouchoir avec le riz et mange un grain de riz. Et un ou deux grains de riz. Et Krishna était très satisfait. Et si Krishna est satisfait, c'est comme l'univers entier peut être satisfait. Et finalement, la visite se termine. Ils s'en retournent chez eux. Et lui vivait dans une hutte très pauvre, très simple. Là, ils s'en retournent chez eux. Puis, il n'y a plus de hutte. C'est un palais. Sa femme est entourée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de servantes. Puis sa femme est toute bien habillée, toute décorée. Et là, il se dit dans sa tête, « Ah! » Je sais pourquoi ça arrive. C'est parce que c'est par la grâce de mon ami qui est Krishna. Alors, c'est comme ça, la conscience de Krishna. Oh. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non, merci.
OK. Bon, alors, il est fait mention dans ce qu'on a lu, là. On dit, page 36 à la ligne 25. On parle de la pure science de la bhakti. C'est une science et ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, OK, on a quelqu'un qui s'en vient. Les gens se joignent à nous. Alors, c'est une science et il faut être conscient que c'est une science et que c'est pas donné à tout le monde. Et essayer justement de cultiver, de profiter au maximum de ce qui nous a été donné, en particulier par la grâce de Srila Prabhupada. Alors, on peut pas spéculer non plus, et on peut recevoir cette science à une condition. Quelle est cette condition?
S'abandonner complètement à Krishna et...
Non, là, tu vas trop loin, là. Oui, tu as raison, mais on parle des premières étapes.
Suivre son maître spirituel?
Pardon?
Suivre les enseignements de son maître spirituel?
Oui. La condition, c'est d'avoir un cœur ouvert, les oreilles ouvertes, et de recevoir cette science. Le pur dévot.
En fait, et... d'avoir un amour sincère.
Oui. D'avoir c'est la condition. C'est disons, comment on peut dire, le vif désir d'écouter la science comme telle. D'avoir un grand désir de l'écouter, de l'apprendre, de suivre. Alors, et tout ça, ça commence avec l'humilité. L'humilité, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de la vie spirituelle. c'est l'humilité. Et l'absence d'humilité, ça veut dire que les portes se referment. Que c'est l'orgueil ou, comme on dit en québécois, se péter les bretelles, c'est le début de la fin. Que c'est sûr, quelque part, il y a une chute qui s'en vient. Alors, il y a de nombreuses histoires comme ça, de personnes qui viennent à une certaine position prestigieuse et que ça leur monte à la tête et ça cause leur propre perte pour les bêtises que ces personnes-là vont faire ou ont faites comme telles. Alors, l'humilité, c'est un signe de savoir et c'est le début du savoir aussi, c'est de devenir humble. Alors, dans la Bhagavad Gita, il y a deux qualités qui sont énumérées ensemble comme étant les qualités pour recevoir la connaissance ou développer la connaissance. Alors, je vais essayer de vous les trouver. Ça peut-tu marcher, cette affaire-là? Oui. Bon, parfait. Alors, c'est en anglais. Vous voyez mon écran? C'est marqué Bhagavad Gita, chapitre 13, versets 8 à 12. Alors, les deux premiers mots en sanskrit, Amanidvam, Adambidvam. Alors, si on regarde le mot à mot, Amanidvam veut dire l'humilité et Adambidvam veut dire la modestie. Alors, est-ce que ces deux qualités-là vont ensemble? Quelle est la réponse?
Oui, tout à fait.
Ouais, effectivement. Et si on recherche une définition de la modestie, on trouve ça...
Ce sont des synonymes presque.
La modestie. Modération, retenue dans l'appréciation de soi-même. Donc, c'est associé avec l'humilité, la modestie. Alors, ici on dit, quelle est la signification du mot modestie? Pudeur dans l'expression des sentiments, la modestie de son regard. Deux, modération, réserve, retenue dans l'appréciation de soi-même. Sa modestie est excessive. Bon, ben là, c'est excessif. Bon, c'est discutable. S'il y en a qui aiment ça à l'excès. Mais en général, la modestie, c'est une qualité qui est assez rare dans la vie matérielle. Genre, on peut dire, ah, la modestie, on repassera. Parce qu'il y a beaucoup de faux égos.
C'est ça, le monde matériel. Le monde matériel dans lequel on vit, là, aujourd'hui, nous demande, nous pousse à justement développer le faux égo. Donc, on peut pas être modeste quand on est tourné que vers soi. Sa petite personne.
C'est ça. En général, les gens sont infatués de leur propre personne, en général. Ça, c'est le faux ego. Alors, le faux ego, c'est expliqué aussi que c'est le nœud qui nous retient à l'existence matérielle. C'est un nœud qui est comme un nœud gordien. C'est un nœud, disons, qu'on ne peut pas défaire. La seule façon de défaire ce nœud-là, c'est en écoutant justement la science de la bhakti d'un pur dévot de Krishna. Alors, comment la science de assimiler la science de la bhakti va faire en sorte que on devient une personne qui garde la tête froide en toutes circonstances? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, ça prend du temps et ça prend la grâce de Krishna. Ça prend la grâce d'un pur dévot pour justement devenir un dévot comme on dirait en langage québécois, qui commence à avoir de l'allure, qui commence à ressembler à un dévot. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît un dévot? Ça, c'est une bonne question. Parce que beaucoup de personnes peuvent dire, « Ah, moi, je suis un dévot. » Mais comment est-ce qu'on va reconnaître un dévot pour, mettons, si on peut dire, pour le vrai? Ça, c'est une bonne question. Pas de réponse?
Peut-être par rapport à la façon dont il, justement, comment il se comporte, comment il agit.
Oui. Alors, comment il se comporte, comment il agit, et c'est basé sur quoi? Là, je vais faire un petit recherche parce qu'il y a un très beau verset du Srimad Bhagavatam qui est vraiment super.
Je rajouterais comment on peut voir aussi comment son mental est fixé en fait et contrôlé. Donc comme on disait au début du cours, l'anxiété, toutes ces choses-là, on peut voir en fait.
Oui. Alors, il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam, 3e chant, 25e chapitre, verset 21. Là, malheureusement, on ne l'a pas en français. Là. Je l'ai ailleurs, mais ça, c'est disponible en ligne sur vedabase.io. Alors, les qualités d'un dévot. Alors, je vais le traduire. Les signes d'un sadhu sont la tolérance, la miséricorde, l'amitié envers tous les êtres. Il n'a pas d'ennemis. Il est paisible. Il suit les écritures et toutes ses caractéristiques sont sublimes. Teneur et portée. Un sadhu est, tel qu'il est décrit ici haut, est un dévot du Seigneur. Il est concerné par conséquent d'éclairer les gens dans le service de dévotion offert au Seigneur. Telle est sa miséricorde. Il sait que sans le service de dévotion offert au Seigneur, la vie humaine est un échec. Un dévot voyage partout dans le pays, de porte en porte, et il prêche, soyez conscient de Krishna, soyez un dévot du Seigneur Krishna, ne gaspillez pas votre vie à simplement satisfaire vos propensions animales. La vie humaine est faite pour la réalisation spirituelle ou la conscience de Krishna. Tels sont l'objet de prédication d'un sadhu. Il n'est pas satisfait avec sa propre libération. Il pense toujours aux autres. Il est des plus compassionnés personnellement. Il est une personnalité des plus compatissantes envers toutes les âmes déchues. Par conséquent, une de ses qualifications est Karunika, grande miséricorde pour les âmes déchues. Pendant qu'il est engagé dans des œuvres de prédication, il doit rencontrer tellement d'éléments opposés. Et par conséquent, le sadhu ou le dévot du Seigneur doit être très tolérant. Quelqu'un peut le maltraiter parce que les âmes conditionnées ne sont pas prêtes à recevoir la connaissance transcendantale du service de dévotion. Elles n'aiment pas cela. Et telle est leur maladie. Le sadhu a une tâche sans merci d'inculquer à ces personnes-là l'importance du service de dévotion. Parfois, les dévots sont personnellement attaqués avec violence. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Haridas Thakur a été battu sur 22 places publiques de marché. Et le Seigneur l'assistant principal du Seigneur Chaitanya, Nityananda, a été attaqué violemment par Jagai et Madai. Mais malgré tout, ils étaient tolérants parce que leur mission était de sauver les âmes déchues. Une des qualifications d'un sadhu est qu'il est très tolérant et qu'il est miséricordieux envers toutes les âmes déchues. Il est miséricordieux parce qu'il est le bienfaiteur de tous les êtres vivants. Il est non seulement un bienfaiteur de la société humaine, mais un bienfaiteur de la société animale aussi. Il est dit ici « sarva dehinam », ce qui indique tous les êtres vivants qui ont accepté des corps matériels. Non seulement l'être humain a un corps matériel, mais d'autres êtres vivants, tels que les chats et les chiens, aussi ont des corps matériels. Le dévot du Seigneur est miséricordieux envers tout le monde, les chats, les chiens, les arbres, etc. Ils traitent tous les êtres vivants d'une telle façon qu'ils peuvent ultimement obtenir le salut, être sauvés de cet empêtrement matériel. Shivananda Sena, un des disciples du Seigneur Chaitanya, donna la libération à un chien en traitant le chien transcendantalement. Il y a plusieurs instances où un chien obtient le salut du fait d'être associé avec un sadhu, parce qu'un sadhu engage tous les êtres vivants dans les activités philanthropiques les plus élevées pour la bénédiction justement de tous les êtres vivants. Et toujours est-il que bien qu'un sadhu n'est pas inimical envers qui que ce soit, le monde est tellement ingrat que même un sadhu a plusieurs ennemis. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Bon. Attendez, on va continuer. Quelle est la différence entre un ennemi et un ami? C'est une différence de comportement. Un sadhu se comporte avec toutes les âmes conditionnées pour leur soulagement ultime de l'empêtrement matériel. Par conséquent, personne ne peut être plus amical qu'un sadhu dans cette activité de libérer une âme conditionnée. Un sadhu est calme et il suit silencieusement et paisiblement les principes des Écritures. Un sadhu signifie celui qui suit les principes des Écritures et en même temps, il est un dévot du Seigneur. Celui qui suit véritablement les principes des Écritures doit être un dévot de Dieu, parce que tous les shastras nous instruisent d'obéir aux instructions de Dieu, la personne suprême. Par conséquent, sadhu signifie quelqu'un qui suit les injonctions des Écritures et un dévot du Seigneur. Toutes ces caractéristiques sont proéminentes chez un dévot. Un dévot développe toutes les bonnes qualités des demi-dieux. Tandis qu'un non-dévot, même s'il est académiquement qualifié, n'a pas de véritable bonne qualification ou de bonnes caractéristiques selon le standard de réalisation transcendantale. Alors, ça c'est très important. Alors, comme par exemple, si on regarde le mot tamo, c'est dit ici sadhava, ici là. Une des caractéristiques, sadhava, c'est la dernière ligne du verset en sanskrit. Sadhava veut dire quelqu'un qui suit les Écritures. Alors, dans le Bhagavad Gita, dans le chapitre 16, c'est dit, quand Krishna décrit les qualités divines, et après, il décrit les qualités démoniaques. Et parmi les qualités démoniaques, c'est que les êtres démoniaques ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas, en fait, leur problème, c'est qu'ils ne suivent pas les Écritures. Alors, pour savoir quoi faire, faut suivre les Écritures. Le comportement est indiqué dans les Écritures. C'est la protection de Krishna qui est donnée aux âmes conditionnées, mais via les Écritures. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures ou qui ne veut pas les suivre pour une raison ou pour une autre, ben automatiquement, il ne sait pas quoi faire. C'est pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors, le Bhagavad Gita dit pravritim cha, nivritim cha. Pravriti, savoir quoi faire, et nivriti, veut dire le contraire. Savoir quoi faire ou ne pas faire, ça, les démons ne savent pas. Les asuras. Alors, un dévot est appelé sadhava, c'est-à-dire quelqu'un qui suit les Écritures. Alors, s'il suit les Écritures, il va savoir automatiquement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.